RCF.
Père Gabriel, Dieu se fait homme pour annoncer à l'homme sa vocation, pour qu'il adhère librement à ce qu'il vient lui proposer. Mais il prend d'abord la forme d'un bébé. Il naît au fin fond d'un pays à peu près inconnu
et occupé par les Romains.
Ouais, dans une mangeoire, rejeté dès sa naissance par tout le monde. Pourquoi cette option-là plutôt que celle de la puissance et d'une arrivée spectaculaire?
Parce qu'on n'est pas dans le conte de fées. Et on n'est pas dans la légende, ni dans le mythe. Dans les mythes, dans les légendes, les dieux viennent de façon... Ou dans les films hollywoodiens, de nos jours, c'est les films de Hollywood, où les agents, où les héros, pardon, viennent de façon spectaculaire. Là, on est dans le réel. Et on est dans le réel de l'homme et de la femme de tous les jours. Et quel est ce réel? Sinon d'une humanité écrasée, parfois, il faut dire, en l'occurrence, la Palestine écrasée par les Romains, d'une famille... entre guillemets, pauvre, qui n'est pas riche. Bon, il n'est pas dans la misère, je pense. Joseph était charpentier, donc c'est une vie, on va dire, c'est... Allez, l'artisan, une famille d'artisans, donc qui vit tant bien que mal, qui n'est pas une condition sociale très élevée. Donc il est né dans une famille normale, comme monsieur et madame tout le monde, une fille qui vit bien, autrement dit, dans le réel et le quotidien. Et donc on n'est plus dans le conte de fées, on n'est plus dans le mythe, on n'est plus dans la légende, on est dans le réel de l'humanité. Et Dieu a choisi ce réel de l'humanité pour s'y incarner.
Et il va falloir qu'il aille loin pour se faire connaître, et c'est ce qu'on appelle la vie publique.
Tout à fait. Qui va le mener jusqu'à la croix d'ailleurs. Quand j'entends vous dites il faut qu'il aille loin, moi je vois la croix.
Eh oui. Oui,
la
oui.
Croix, bien sûr, tout à fait. Une vie publique qui a duré 3 ans d'ailleurs, qui était assez courte et qui va le mener jusqu'à la croix.
C'est pas pour rien d'ailleurs que certaines représentations des icônes de la nativité ou des peintures le représentent dans un berceau qui ressemble à un tombeau, non?
Tout à fait, un cercueil. Tout à fait. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, je ne suis pas bibliste, mais j'ai des réminiscences de mes études de Bible. Le mot emmailloté, tout le vocabulaire dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de la naissance, tout le vocabulaire du vêtement, c'est le même qui est utilisé après pour la résurrection. C'est-à-dire le linceul, c'est même allusion. Emmailloté, c'est le même mot qu'on utilise pour emmailloter les morts quand ils meurent, pour fermer le linge. C'est pour dire que de sa naissance, déjà dans sa naissance, il y a déjà les prémices de sa mort, tout à fait. Et résurrection, bien oui. Entendu.
Alors, il naît quasiment inaperçu.
Absolument.
Et vulnérable.
Tout à fait, tout à fait.
Et où est Dieu là?
Il est là. Dans l'inaperçu, dans la vulnérabilité. Vous savez, quand on a entendu le rapport de... J'ai lu un interview de M. Sauvé à propos de la Cièze. Et avant, il dit, mais où est Dieu? Après, il dit, Dieu était avec les victimes. Il était à genoux avec les victimes. Quand on lit certains récits de rescapés d'Auschwitz, des camps de la mort, il dit, était où Dieu? Ben, il était avec ses victimes dans les camps de la mort. Et donc Dieu, il était là dans le cœur de la souffrance de l'humanité, dans sa vulnérabilité, dans son quotidien, Dieu avec elle, avec l'humanité.
Mais est-ce que c'est encore un Dieu tout-puissant?
Tout-puissant d'amour. Justement, qu'est-ce qu'on entend par tout-puissant? Il me semble, prenez ça avec un peu des pincettes, j'espère que nos auditeurs les prendront avec des pincettes, il me semble qu'on a beaucoup pris le dieu grec, qu'on mélange parfois le dieu de Jésus-Christ avec les divinités grecques qui sont elles toutes-puissantes.
Avec Zeus ou Neptune.
Voilà, avec Zeus, avec Jupiter, et on voit cette toute-puissance des dieux grecs. Or, dans le dieu, il me semble, ça c'est ma foi, que le dieu de Jésus-Christ est tout-puissant d'amour. Il est tout puissant de tendresse, de miséricorde. Et là, on n'est plus dans cette toute puissance imaginaire du héros musclé, un peu comme les anciens pubs du Marlboro, comme les films de Sylvester Stallone, le fameux Rambo ou Rocky, qui vient sur un cheval blanc sauver la jolie princesse, sauver toute la ville derrière, et tout l'imaginaire de héroïsme, un peu d'un machisme viril poussé un peu à l'extrême et qui a fait beaucoup de dégâts, surtout vis-à-vis de vous, les femmes d'ailleurs. Ça, les femmes ont payé les frais. On dit souvent la pauvre vierge qui est sauvée par ce héros, comme si la femme ne peut pas se sauver elle-même, voyez-vous le côté machiste derrière. Bon, bref, on ferme cette petite parenthèse. Dieu n'est pas le dieu Zeus. Dieu, il est Dieu tout-puissant d'amour. Et donc, du coup, on n'est plus dans la magie, parce qu'on s'imagine toujours un dieu magicien qui va venir taper. Non, non, il va agir dans le quotidien des humains, il va interpeller des libertés, faire route avec des hommes et des femmes libres, petit à petit les appeler à cette conversion du cœur et de vie, bien entendu, pour petit à petit construire ce royaume. Un royaume fait par des hommes et des femmes, avec leur vulnérabilité, Dieu nous prend tels que nous sommes. Et c'est là où la conversion, c'est au cœur de mon quotidien que se fait cette conversion et où petit à petit j'adhère au plan salutaire de Dieu et au royaume que nous on appelle ici dans les prémices sont l'Église. Église, peuple de Dieu, attention, et qui a ses limites. On l'a vu avec la Cèse, avec le rapport de la Cèse, on a vu les grandes limites de l'Église d'ailleurs.
Mais donc ce Dieu tout-puissant d'amour n'empêche que quand l'homme est en souffrance, quand l'homme crie vers lui, il aimerait un miracle. Il aimerait que Dieu puisse intervenir comme ça et le sortir de la tragédie dans laquelle il est plongé.
Justement, on est encore dans le conte de fées. On est encore dans la légende. Alors quand dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. J'avais entendu une émission sur Germaine Tillon quand elle racontait son séjour à Ravensbrück. Le miracle était dans cette solidarité entre ces femmes, où cette femme, Germaine Tillon, leur disait « Attention, il y a tout, parce qu'elle a étudié les camps de concentration, elle disait « Attention, il ne faut pas qu'on meure ». Donc elles étaient solidaires, elle a écrit une opérette pour rire. Donc il y a eu tout ça, le miracle, il est là, dans ces solidarités humaines. Et Dieu, il est comme ça, il est là, le salut de Dieu, dans cette solidarité. Solidarité entre ces femmes qui s'étaient solidaires les unes aux autres pour ne pas se laisser mourir. Il y a un très beau roman de Vassili Grossman qui s'appelle « Vie et destin ». C'est un gros pavé qui est magnifique. Avant, on parlait de la retraite, des armées allemandes de Stalingrad. Puis un soldat allemand qui se mourait, puis une femme le regarde, une russe, une babouchka, puis elle rentre chez elle et sort lui. Il croyait qu'elle allait sortir pour le taper, puis il donne une miche de pain. Il le regarde dans son lien de vie, il donne une miche de pain qui va lui permettre de survivre. Il est là le miracle. On entend beaucoup de récits de miraculés qui ont été sauvés par des petits trucs à Auschwitz. Alors bien sûr, la question du mal va demeurer. Pourquoi Auschwitz? Et ceux qui sont morts? Et ceux qui ont été trépassés? Ça, il y a cette question du mal. Et bien, ça, n'en parlons pas. Le mal. Le mal.
Ce miracle-là dont vous parlez, est-ce qu'il y a besoin d'adhérer à la révélation que Dieu nous fait en s'incarnant pour le vivre, ce miracle? On sait bien que la solidarité, que la générosité peuvent venir de n'importe où et de
absolument.
N'importe qui. Le mal
absolument.
Peut, mais le bien aussi.
Absolument. Et heureusement. Heureusement, le mal n'est pas l'apanage des chrétiens ni de l'Église catholique ou de l'Église protestante. Heureusement. Peut-être nous, la différence, c'est que nous, quand on dit... Quand vous le faites, Matthieu 25, au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc le chrétien, il est conscient que quand il sert le plus petit, c'est Dieu lui-même qu'il sert. Ou pour le dire autrement, ce plus petit est l'icône de Dieu. Ça, le chrétien, celui qui chemine avec Jésus, il le sait. Et on va dire, celui qui ne le sait pas, il le saura un jour. Il va dire, tiens, j'ai servi, moi j'ai pas mal. J'ai une très bonne amie à Lille qui se dit agnostique. Et en même temps, elle est très active. Elle était avec maintenant, elle est décédée avec sœur Irène. Elle allait dans la rue avec les gens sans domicile fixe. Elle se donnait. Elle me dit, monsieur Gabriel, je suis agnostique. Je dis, d'accord. Elle me dit, je crois à la dignité de l'humain. Qu'est-ce que croire à la dignité de l'humain, sinon à ce Dieu qui se cache derrière l'humain? Et qu'un jour, elle va dire... Sans faire de la récupération, en respectant la non-foi de cet ami, j'étais avec toi et je ne le voyais pas, et je ne le savais pas.
Il y a un très beau livre aussi d'un Français qui s'appelle Éloi Leclerc, qui s'appelle Le Trébat, Christian Bobin.
Et c'est Christian Bobin, oui, je n'ai pas lu, j'ai entendu parler de ce livre, je n'ai jamais lu, alors que je suis prof de lettres.
En tout cas, rien que le titre, Le Trébat, c'est un peu ce Dieu-là, ou c'est beaucoup ce Dieu-là que nous révèle Bethléem.
Tout à fait.
C'est une autre manière de parler du Très-Haut qui dit ce que vous venez d'expliquer là, quoi.
Tout à fait. D'ailleurs, vous avez cité Éloi Leclerc, il a écrit un livre, j'ai oublié l'intitulé, où il parle souvent parce qu'il était, dans les camps de concentration, donc il raconte ce voyage dans ces camps de concentration et où est-il Dieu? À un moment, il dit, d'ailleurs, je me rappelle, je l'ai lu il y a presque une vingtaine d'années, à un moment, il dit, à un moment, on est arrivé, puis on dit quatre franciscains et à un moment, on a chanté. dans le train qui l'a amené, alors qu'il était debout, il y avait des gens qui sont morts dans des conditions les plus terribles, au cœur de cette déshumanisation, on dit, on a chanté. Il y a eu un chant qui s'est levé. Et ça, il y a l'humanité qui souffrait un chemin à travers la plus grande déshumanisation. Moi, je le vois avec les victimes de l'explosion du port de Beyrouth, où la classe politique libanaise qui veut déshumaniser ce pays, il y a des tentatives d'humanisation.
Et c'est là qu'est Dieu.
C'est là qu'est Dieu, dans cette résistance à la déshumanisation.
Et dans l'humain, finalement, dans
justement,
tout ce qui fait
justement,
ouais,
justement.
Cette force et cette ténacité aussi.
Absolument. Moi, je le vois, par exemple, j'étais la dernière fois avec les parents du victime du port de Beyrouth. J'avais Carlen. Carlen a perdu son frère, son mari et son cousin. Donc, elle a enterré le même jour le mari, le frère, le cousin. Une femme qui a 25 ans, qui élève seule ses deux gamines maintenant, elle a deux filles. Elle me dit, qu'est-ce qui te fait tenir? Elle regarde, elle pointe le doigt vers le ciel. Elle dit, lui, Dieu, Dieu me fait tenir. Et il est là, Dieu. Auprès de cette veuve, cette femme qui élève seule ses deux gamins, qui a perdu ses êtres les plus chers, et qui fait face à un état déshumanisé et déshumanisant, et elle essaie de garder le peu d'humanité. Elle n'a pas de rancœur, cette femme qui n'a aucune rancœur, elle n'est pas aigrie, elle n'est pas défigurée par la douleur, elle est attristée par la douleur, mais pas écrasée, elle est encore debout, elle se bat pour ses filles, elle se bat pour la justice, et puis elle a toujours un sourire dans sa dignité. Moi, je vois Dieu, il est à côté de Carlin et des autres victimes face à un état déshumanisant qu'est l'état libanais actuellement.
On poursuit demain.
À demain.
Merci beaucoup.